Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque vendredi, l'écrivain Régis Debray interroge les rapports de force internationaux.
Je reçois ce soir le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre et professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC. Bonsoir, général Desportes.
Bonsoir, Régis Debray.
Alors voilà, je vous ai invité parce que j'ai lu votre livre, qui est un livre capital, qui n'est pas le seul, qui est le dernier, La dernière bataille de France. Pour moi, c'est une lecture fondamentale et j'aime que réapparaissent les figures de militaires penseurs et écrivains et néanmoins sachant de quoi il parle, et vous avez mis en exergue une citation profonde du général de Gaulle. On n'aime pas regarder en face la guerre, pas plus que la mort, mais en chassant l'idée, on n'écarte pas le devoir. Alors, c'est vrai que on n'aime pas parler de la guerre, on n'aime pas la regarder en face, ce que vous faites. La guerre est l'enfant pauvre des réflexions philosophiques et même des sciences humaines. Et vous avez pris le parti, je crois, général, de faire de la guerre, j'allais dire, un thème en soi, un objet d'étude.
Absolument, Régis Debray. Je crois que la guerre n'a pas disparu du monde, contrairement à ce que la majorité des Européens pense, et l'Europe peut mourir d'avoir évacué la guerre de ses réflexions intellectuelles, et donc je crois qu'il est important que cet objet social, politique, extrêmement compliqué, etc., soit mieux compris des peuples, et puis, je dirais, de nos gouvernants, qui passent très peu de temps à réfléchir à cet objet qui va et qui vient, et qui revient aujourd'hui, hélas, en force.
Ils y passent si peu de temps qu'ils peuvent parfois commettre des erreurs et des bourdes stratégiques, évidemment. Mais alors, votre livre, qui est à la fois très bien écrit et très, je dirais, vif, interroge, cette curieuse manie française. D'abord, de ne pas avoir des war studies, comme en ont les Anglais, mais d'orienter éventuellement les recherches sur la paix. Mais vous allez beaucoup plus loin. Vous dites qu'il y a aujourd'hui un mensonge français, c'est-à-dire une extravagante contradiction entre la politique militaire et la politique extérieure, disons entre l'inflation militaire des engagements français sur différents théâtres et puis la déflation budgétaire, et pas seulement au-delà, un manque de considération pour l'institution militaire, si je vous ai bien compris.
Vous avez parfaitement compris, Régis Debray. Le premier point que vous avez cité est important. La France est un pays où on n'étudie pas la guerre en dehors des armées. Or, la guerre dépasse les armées. Les armées sont faites pour concevoir et gagner les batailles. La guerre est un objet politique et non pas uniquement militaire, et on n'y réfléchit pas. Contrairement à ce qui se fait dans les pays anglo-saxons, par exemple au King's College à Londres, où on a des war studies, comme vous l'avez dit, Régis Debray, où on étudie la guerre en tant qu'objet d'étude, ce qui n'existe pas en France. Aux États-Unis, c'est la même chose. J'ai vécu longtemps aux États-Unis, j'ai été frappé par le fait que la guerre est un objet d'étude en soi, dans lequel on peut faire carrière à l'université en faisant des recherches sur la guerre, ce qui n'existe pas en France. Donc, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de carrière sur la guerre, et donc, évidemment, la réflexion sur la guerre en elle-même est paupérisée. Ce qui permet, en aval, vous l'avez dit, Régis Debray, ce que j'appelle le mensonge français, c'est-à-dire que la guerre a disparu des préoccupations normales. Et donc, on peut mentir, quand on est dans l'exécutif, on peut mentir aux Français sur l'existence même de la guerre, et donc sur la nécessité de préserver un outil capable de faire face aux dangers, aux risques, et de préserver la sécurité et la défense des Français. Donc, il y a bien un mensonge français sur cette affaire-là, typique. Alors, je dirais qu'il est presque autant européen que français, et peut-être même un peu moins français qu'européen. Mais il y a un mensonge global, occidental, si on accepte les États-Unis, sur la guerre aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut remonter la pente, vous croyez? En France, en tout cas. On parlera de l'Europe ensuite.
Alors, je crois que...
Il y a tout de même eu, dernièrement, des mesures, disons, de conservation budgétaire, enfin, une sorte de, peut-être, de retour en considération, parce qu'on utilise tellement l'armée. À vrai dire, reconnaissez que quand vous êtes président de la République, vous n'avez prise sur rien. Vous n'avez pas prise sur l'économie, vous n'avez pas prise sur l'Europe, mais vous pouvez toujours appeler votre chef d'état-major et lui dire, voilà, faites-moi une intervention dans tel pays, et ça répond.
Exactement.
Et donc, il y a une tentation pour le politique d'utiliser le militaire. Il ne s'en prive pas. Et peut-être de ne pas assez écouter le militaire. Moi, il y a une chose que vous notez dans votre livre qui m'a beaucoup touché, enfin, qui m'a rappelé un fait étrange. Il n'y a plus de militaires à l'Académie française. Alors qu'il y a toujours eu un représentant. Vous me direz que ça a été Pétain, mais pas seulement. Il y a eu Foch, il y a eu... Et c'est symptomatique d'une certaine déconsidération, déclassement du chef militaire.
Vous avez parfaitement raison.
Je sais que vous protestez là contre, c'est-à-dire qu'au fond, on utilise le militaire, mais on ne l'écoute plus trop.
Non, mais vous avez raison. Et on voit une évolution de la société qui est préjudiciable à cette même société. Moi, je crois que les militaires sont un pilier très important de la nation, de toutes les nations, et que ce pilier doit exister. Mais en France, depuis de très longues années, le militaire est toujours repoussé davantage en marge de la nation, parce que le militaire rappelle le tragique du monde. Le militaire rappelle que la guerre peut exister. Le militaire rappelle que peut-être que le monde post-moderne dans lequel on veut vivre n'est qu'une illusion du monde.
Oui, le militaire est un peu notre mauvaise conscience. Mais avouez que tout de même, les guerres coloniales ont fait beaucoup pour déconsidérer, enfin, pour créer un embarras de ce côté-là.
Oui, mais enfin, rappelons encore une fois que les guerres ne sont pas décidées par les militaires. Les guerres, les militaires exécutent des politiques qui sont décidées au plus haut niveau de l'État.
Absolument.
Alors, oui, absolument. Mais vous avez raison, il y a une histoire.
J'en veux beaucoup plus à M. Guy Mollet qu'au général Massu, personnellement.
Bien sûr. Et les militaires exécutent, et souvent sont d'ailleurs assez opposés aux guerres qu'on leur propose.
Oui, ça c'est le paradoxe. Les militaires sont moins militaristes que les civils, souvent.
Ah, très clairement, parce que les militaires sont dans la nation les seuls qui ont une vraie conscience de ce qu'est la guerre, de ce qu'elle a dans son côté totalement erratique, non maîtrisable, et de la conscience que la guerre, c'est forcément du sang versé, de la violence, de la mort, de la destruction. Les militaires le vivent dans leur corps, le vivent tous les jours. Poser la question à ceux qui sont aujourd'hui déployés en Irak, à ceux qui sont déployés au Sahel, ils vivent la guerre. Et donc, ils sont généralement beaucoup moins militaristes que les politiques qui ont moins conscience de ces caractéristiques terribles de la guerre.
C'est un paradoxe que la gauche devrait prendre en considération, je dirais, dans ses réflexes sommairement antimilitaristes, qui n'étaient pas ceux de Jaurès, je rappelle. Maintenant, vous parliez de la nation, mais aujourd'hui, la nation, qu'est-ce que c'est? C'est plus grand-chose. Alors, il y a eu l'Europe, tout de même. Il y a eu le grand rêve européen d'une société... post-militaire, fallait dire, post-héroïque.
Exactement.
D'une société où on sortirait du tragique et où on ferait du commerce, on ferait du droit, vous appelez ça l'Europe somnambule. Il y a tout de même eu des projets, des vagues projets de défense européenne. Qu'est-ce que vous pensez? C'était un espoir crédible ou bien... Car aujourd'hui, chacun constate que cette défense est en carton-pâte. Autrement dit, que l'Europe n'est plus un acteur politico-militaire, disons. Vous y attendiez? Ça vous a déçu? Vous avez eu un espoir dans la défense européenne?
Bien sûr. Il n'y a pas plus européen que les militaires. Ou il n'y a pas eu plus européen que les militaires. Mais les militaires... Ben d'abord parce qu'on leur a dit que c'était comme ça. Et en plus parce qu'ils y ont cru. Ils y ont cru et ils se sont bien rendu compte que c'était une illusion. Écoutez, de manière très simple, depuis la CED, Communauté Européenne de Défense, ça fait plus de 60 ans qu'on essaye de faire monter la mayonnaise et que la mayonnaise ne prend pas. Et que quand aujourd'hui, la France va se battre sûrement pour elle-même, pour la sécurité des citoyens français, mais également pour les citoyens européens au Mali, et qu'on demande à l'Europe de venir, personne ne vient. Donc l'Europe de la défense n'existe pas du tout. Elle n'existe pas du tout. On a des missions européennes qui n'existent que quand il n'y a aucun risque politique pris. Par exemple, cette opération tout à fait utile au large de la Corne de l'Afrique contre la piraterie, c'est une opération européenne, mais elle est faite parce qu'il n'y a pas de risque politique, il n'y aura pas de mort. Mais dès qu'il y a le risque du sang versé, or la défense et la guerre, c'est le sang versé, il n'y a plus d'Europe de la défense. Donc aujourd'hui, les choses sont claires. Nous ne pouvons pas compter sur l'Europe pour assurer la défense de la France. Je crois que la défense européenne doit rester notre horizon, puisque clairement, chacun des pays individuellement européens ne sera pas capable à l'avenir d'assurer sa propre défense. Mais aujourd'hui, nous aurions bien tort de nous départir de nos moyens, parce qu'aujourd'hui, quand la France a besoin de se défendre, elle se défend seule, personne n'est avec elle. L'Europe n'est présente nulle part. L'Europe n'est pas présente aujourd'hui en Irak. Il y a des Européens, il n'y a pas d'Europe. L'Europe n'était pas présente en Afghanistan. Et pourtant, on a eu 30 000 soldats européens, mais les nations étaient présentes, mais pas l'Europe. On voit bien que la défense aujourd'hui ne repose pas sur l'Europe. C'est parfaitement regrettable, mais c'est comme ça. Et donc, on n'a pas le droit de dire aux Français, comptez uniquement sur l'Europe pour votre défense, parce que croyez-moi, en termes de défense, elle n'est pas là et elle ne sera pas là avant très longtemps.
Donc, fin du rêve européen, retour à la réalité. La réalité, comme vous le dites, c'est la défense des citoyens et des intérêts français, voire même européens. Vous disiez 30 000 Européens en Afghanistan, mais pas sous commandement européen, sous un commandement
exactement.
Américain.
Exactement, Régis.
Et alors, ma question perverse, c'est que Le recours nécessaire ou le retour nécessaire à un modèle français de défense, et je dirais à un art français de la guerre, s'il existe, pour reprendre le titre d'un prix Goncourt que j'ai beaucoup aimé, se trouve curieusement aliéné par une fascination envers ce que vous appelez la superstition technologique venue des États-Unis. Et j'ai envie de vous demander si ce modèle américain d'envisager de faire la guerre, dont vous expliquez d'ailleurs, je vous cite, à rêver américain, l'armée française va se réveiller en chaussettes, et vous évoquez le décalage de 10 ans qu'il y a toujours entre, fallait dire, une métropole et sa colonie. On imite à 10 années, avec 10 années de retard, les différentes so-called révolution des affaires militaires. Mais d'abord, comment expliquez-vous cette emprise bizarre? Parce qu'au fond, les États-Unis ont perdu à peu près toutes les guerres qu'ils ont livrées depuis 1945. Je laisse de côté la guerre de Corée qui est un résultat ambigu. Et donc comment expliquez-vous cette sorte de mimétisme sur une conception, une organisation de la guerre qui ne donne pas de bons résultats, si on en juge par l'Irak, l'Afghanistan. Et là, c'est comment expliquez-vous cette sorte de suggestion mentale des états-majors, mais sans doute, vous allez me dire, du pouvoir politique. En tout cas, votre livre dit très bien que attendre du différentiel technologique un surcroît d'efficacité est une bévue.
Absolument, absolument.
Et d'où nous vient cette bévue?
Alors, écoutez, alors il y a évidemment, comme tous les phénomènes, ils ont plusieurs explications. Le premier, il ne faut pas se le cacher, c'est évidemment ce que M. Nye appelait le soft power, hein, qui s'étend partout, qui s'étend chez nous. La deuxième chose, c'est que l'Amérique apparaît comme quelque chose de brillant qui attire le regard. Et donc, on la regarde et on se dit ce qu'elle fait, c'est bien. Et puis, il y a une espèce de fascination chez le militaire, et c'est normal, pour la puissance. Et donc, il y a une puissance américaine qui n'existe pas. Pour moi, il y a une force américaine, mais pas de puissance. S'il y avait une puissance, ils gagneraient leur guerre. Or, ils les perdent. Et et c'est pas la seule raison. Mais le problème, vous l'avez dit, c'est qu'il y a un décalage terrible entre ce mirage américain et la capacité de l'Amérique à gagner les guerres. Ce qui est clair, en tout cas, c'est depuis un demi-siècle, les Américains ont gagné quelques batailles. Je pense à la première guerre du Golfe en 1991, par exemple. Mais ont perdu toutes leurs guerres. Et nous nous épuisons financièrement en particulier à suivre un modèle, à imiter un modèle qui ne produit pas d'efficacité stratégique et politique, qui certes produit de l'efficacité technique et tactique, un modèle qui permet de l'emporter dans la bataille.
Dans le court terme.
Dans le court terme. Mais on sait bien que la bataille n'a pas de sens en soi si elle ne produit pas, de résultats stratégiques. Alors, la raison qui est tout à fait logique, hein, ça a été la guerre froide. Ça a été la guerre froide. C'est-à-dire que la guerre froide a imposé et a organisé une interopérabilité entre les différentes armées qui devaient affronter le pacte de Varsovie. L'Amérique étant le plus gros, enfin les États-Unis étant le plus gros contributeur dans l'OTAN,
75% je crois.
Alors
ça, un peu moins, 50.
Oui, alors 50%.
Peut-être 50.
Maintenant 75 en termes financiers. Et donc que ce modèle majoritaire impose la norme, ça n'était pas normal. Et le problème, c'est exactement ça, c'est-à-dire que les Américains ont gagné la bataille des normes, et que c'est les normes américaines, qui s'appliquent. Or, quand on regarde, alors moi j'ai eu la chance de vivre longtemps aux États-Unis, de travailler pendant 2 ans au sein de l'US Army, puis de l'observer de l'ambassade de France à Washington, on voit bien que l'histoire militaire américaine, c'est une succession d'illusions. Qui ne produisent rien. Les trois dernières illusions, ça a été d'abord la révolution dans les affaires militaires qui a directement conduit à l'engagement américain en Irak en 2003. L'illusion que cette fois-ci, les Américains dominaient la guerre et que donc, Régis Debray, la guerre était devenue un outil rentable de réalisation des objectifs politiques. Ça, c'est ensuite on est
sans engagement de force.
Sans engagement de force.
Sinon par la voie aérienne.
On délivre du feu et on gagne les guerres. Donc il y a cette illusion, c'est le choc and awe, vous savez, cette opération terreur et effroi du début de la guerre en Irak. Évidemment, c'est une illusion. Ensuite, on va tomber dans une pseudo-illusion, parce que ça n'est pas une illusion, mais elle est mal mise en œuvre. C'est ce qui sera appelé couramment la guerre au sein des populations, sur lequel on reviendra. Mm-hmm. Mais on n'y croit pas vraiment, et ça ne produit pas de résultats, puisqu'en Irak et en Afghanistan, ça n'a pas produit de résultats. Et puis, on est maintenant dans une dernière illusion qui s'appelle l'empreinte légère. L'empreinte légère, c'est quoi? C'est de dire, il suffit de 2 forces spéciales et de 2 drones, et on va gagner la guerre. Et on voit que la pensée militaire américaine, qui est foisonnante, qui est intelligente, etc., accouche d'une succession d'illusions qui ne produisent pas de résultats. Et c'est pour ça que vous parliez du modèle français de la guerre. Je crois qu'il serait intéressant de nous poser la question de savoir si notre propre culture stratégique, la culture stratégique française et européenne...
J'allais dire éclairsvitienne, tout simplement. Oui, savoir, il y a une continuité entre le militaire et le politique. Le militaire est subordonné au politique.
Exactement. Vous avez raison de parler de Clausewitz. Oui. Parce que les Américains ont redécouvert Clausewitz à la fin de la guerre du Vietnam, mais ne l'ont pas entièrement compris. Le point fort de Clausewitz, c'est le problème de la continuité de la guerre, de la diplomatie, de la paix. On est dans un chemin constant. Alors que pour les Américains, et ils tombent dans ce piège parce que ce sont des Iliens, pour eux, il y a une profonde rupture entre la guerre et la paix, ce qui n'existe pas. Donc ils mélisent Clausewitz, ce qui les amène à conduire un certain nombre d'erreurs et les conduisent dans ces illusions de la guerre. Et donc, la question, Régis Debray, oui, c'est celle que vous posez. Nous nous échinons et nous dépensons nos finances à imiter un modèle qui ne produit que de l'inefficacité stratégique.
Enfin, on n'a tout de même pas de drone d'attaque, je trouve. Quels sont les exemples que vous pourriez donner d'imitation au sens opérationnel, pas au sens technologique? Parce qu'on a du mal à suivre, on n'a pas les capacités industrielles américaines. Ce que vous dites d'ailleurs, nous adoptons une vision des choses dont nous n'avons pas les moyens pratiques. Avez parlé de normes tout à l'heure. Donnez-moi un exemple d'une norme imitée ou d'une norme imposée.
Eh bien, regardez nos avions, par exemple, nos avions Rafale qui sont de super avions. Ils sont constamment obligés de se battre pour être des non pas des équivalents puisqu'ils sont meilleurs, mais des modèles américains. Nous avons la liaison 16, par exemple. La liaison 16 est une liaison fondamentale aujourd'hui dans les armées de l'air qui permet de communiquer de la data entre les avions, le sol, etc. C'est une norme qui a été imposée par les Américains. Si aujourd'hui votre avion n'a pas la liaison 16, eh bien, il ne rentre pas dans une coalition. Et donc, eh bien, voilà, on adopte la liaison 16. Alors, les exemples sont multiples.
D'accord.
Et l'erreur, si vous voulez, c'est de dire, pour être une bonne armée, je dois être interopérable avec les Américains. Et ça va contre l'Europe de la défense. L'idée fondamentale, ce serait que les Européens soient interopérables entre eux. C'est pas que les Américains soient interopérables. Et les Américains en tirent parti, puisque les Américains, au fond, dans les coalitions, n'établissent que des relations bilatérales avec les autres. Mais toujours du puissant au petit. De l'Amérique à la France, de l'Amérique à l'Allemagne. Et les États-Unis ont un intérêt stratégique à faire en sorte que l'Europe n'apparaisse pas dans ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une puissance stratégique. Mais pour construire cette puissance stratégique, il suffirait que nous soyons interopérables entre nous.
Oui, autrement dit, les intérêts américains ne coïncident pas nécessairement avec les intérêts européens.
C'est le moins qu'on puisse dire, en particulier aujourd'hui.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux.
Au général des portes, on s'attend pas à ce qu'un militaire choisisse du Jacques Brel. On vous attendait plutôt avec la musique de la garde républicaine. Expliquez-moi pourquoi vous avez choisi Jacques Brel.
Alors, pour des tas de raisons, peut-être parce que c'est une chanson qu'adore ma fille Marie, et c'est important. Mais au-delà de ça, je crois que j'adore cette chanson de la quête, parce que je crois que l'homme est homme quand il se grandit. Et c'est ce qui manque bien aujourd'hui à nos civilisations, à nos peuples, c'est qu'ils ne se grandissent pas eux-mêmes. Ils sont dans la recherche du bonheur, dans l'hédonisme. Et que nos gouvernants, et c'est bien la critique majeure que je ferai à ce gouvernement et au gouvernement précédent, c'est de ne pas avoir grandi les Français vers un projet qui les dépasse. Le problème de l'Europe, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'Europe n'est pas un projet qui grandit les hommes. Nos sociétés doivent retrouver des projets qui aident chacun à grandir individuellement et à grandir le collectif vers un but qui les dépasse. La France a été grande quand elle s'est donné des buts, bons ou moins bons, mais la France a été grande quand elle s'est dépassée par elle-même. La France de 1941 à 1945, avec De Gaulle qui veut rebâtir la France, la replacer, la remettre à l'endroit où elle doit être, alors oui, la France a été grande.
Général, ces accents gaulliens sont quelque peu subversifs aujourd'hui. Mais il y a sans doute beaucoup d'auditeurs qui y seront sensibles. Cela dit, fermez qu'on vienne à l'actualité, si vous voulez. Premier ministre et d'autres ont dit la France est en guerre aujourd'hui. Et vous-même, vous dites, mais nous sommes encerclés par une menace qui peut franchir la frontière, qui est la menace islamique. Parlons-en. Aujourd'hui, nous sommes face à la bataille de Mossoul qui vient de s'engager. Mais ma première question serait, Est-ce que pour vous, nous sommes en guerre? Alors, on va me dire, mais quelle guerre? Oui, j'aimerais que vous nous précisiez quelle guerre. Est-ce que le mot de guerre vous semble convenir pour décrire, disons, le problème de sécurité que nous avons aujourd'hui? Et quand? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que je voyais l'autre jour, couverture de magazine, la Troisième Guerre mondiale est engagée. Je dis, épouvantable, effectivement. Puis après, on me rassure, on dit 250 morts par an. Ce qui, comparé à la guerre de 14-18, 40-45, me semble tout de même une bonne nouvelle, si j'ose dire, une bonne nouvelle. J'aimerais voir comment vous, en tant que militaire et stratège, vous voyez aujourd'hui le problème de la confrontation avec Daesh et surtout de ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme.
Alors, Régis Debray, je vais éviter de tomber dans le piège que vous me tendez, puisque je sais bien que vous considérez que nous ne sommes pas en guerre. Vous l'avez écrit. Alors, c'est une affaire de définition du terme
oui,
guerre.
Oui, oui.
Et c'est une affaire de sémantique. Moi, je pense que nous sommes en guerre parce que aujourd'hui, nous sommes en train de combattre avec des moyens limités, mais nous sommes en train de combattre dans cette bataille de Mossoul avec des soldats qui sont au sol. Ce sont nos canons qui tirent aujourd'hui, maintenant, dans les faubourgs de Mossoul, ce sont nos avions décollant du Charles de Gaulle ou de Jordanie. Bon, nous attaquons quelqu'un et ce quelqu'un nous attaque et tue sur notre propre territoire. Ça s'appelle la guerre. Pour moi, la guerre, on peut avoir d'autres définitions, c'est quand deux entités politiques prennent les armes pour régler leurs différends. Et nous sommes exactement dans cette affaire-là. Et quand on est en guerre, et c'est bien ce que je reproche à l'actuel gouvernement, quand on est en guerre et quand on dit qu'on est en guerre, alors on prend les moyens de la guerre. Le président Hollande nous a dit le 15 novembre dernier à Versailles, devant le Congrès réuni, que nous étions en guerre, mais derrière, les moyens de la guerre n'ont pas été pris. Et c'est bien ça, vous le disiez tout à l'heure, c'est bien la difficulté. À force de nous engager sur de multiples théâtres, eh bien, nous sommes, l'armée française est en guerre, mais elle n'a pas pris les moyens de la guerre. C'est-à-dire que nous faisons la guerre sans avoir une politique de la guerre. Et on est très loin, là, de la force de Clémenceau, qui nous dit « je fais la guerre dans tous les domaines, je la fais en économie, je la fais en diplomatie, etc. » Nous, on dit qu'on fait la guerre, mais on a le sentiment que c'est plus un discours politique, alors que oui, nous sommes en guerre, et qu'on doit mettre en corrélation, là, les engagements français, le fait que les armées françaises combattent aujourd'hui, et la politique de défense qui n'est pas du tout adaptée aujourd'hui à cette surexposition stratégique.
Oui, vous allez nous dire en quoi elle n'est pas adaptée, mais moi je m'interroge tout de même, parce que nous n'avons pas en face de nous des forces militaires, même pas comparable aux nôtres, bien entendu. Nous avons en face de nous une bande mystique d'illuminés qui n'a évidemment pas les moyens technologiques de se confronter aux forces occidentales. Mais surtout, si vous dites que nous sommes en guerre, et je dis, mais qu'est-ce qu'une guerre qui n'a pas de traité de paix possible? Quand on est en guerre, on a un but de guerre. Un but de guerre après lequel on cesse d'être en guerre. Mais qu'est-ce qu'une guerre qui n'a pas de fin, à tous les sens du mot? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on déclara nous sommes en paix? Comment voulez-vous que les représentants du Dieu Tout-Puissant sur Terre, le calife ou son successeur, disent tout d'un coup, bah oui, bon, on s'était trompé, on n'est pas assez puissant, on vous rend les armes. C'est absurde. La guerre qui est engagée n'a pas de solution militaire.
Mais la guerre n'a jamais de solution militaire.
Oui, mais elle a peut-être... Les guerres précédentes, excusez-moi, débouchent sur parfois un armistice, parfois un traité de paix, en tout cas un retour à la paix. Quel peut être le retour à la paix? Qu'est-ce qui vous permettra de dire, général Desportes, que nous avons gagné la guerre?
Mais attendez, là, Régis Debray, vous dites que la guerre n'existe que si elle a un but. Hélas, il y a des guerres qui sont conduites et qui n'ont pas de but. Les guerres, pour moi, c'est deux entités politiques qui prennent les armes pour régler leurs différends.
Il y a une entité politique de l'autre côté.
Ah, bien sûr. Daesh, c'est bien une entité politique avec une vision du monde, bien plus claire que la nôtre, probablement. Hein, et avec une stratégie, une vraie stratégie pour la conduire. D'accord. Et nous sommes le peuple français, et nous sommes bien une entité politique. Donc on est bien dans cette affaire-là. Alors, la difficulté, vous l'avez dit, c'est que désormais, la majorité, nous sommes habitués à des guerres dont on peut signer la fin. Aujourd'hui, on ne peut pas signer la fin de la guerre. Et vous l'avez dit aussi, ce qui est important dans la guerre, c'est la paix. Parce que la guerre, c'est construire. Les gens pensent que la guerre, c'est détruire. Non. La bataille, c'est détruire. Mais la guerre, c'est construire. Et la difficulté de cette guerre-là, c'est qu'on la conduit à coups de bataille et qu'on n'arrive pas à en faire une guerre au sens où c'est un édifice qui va vers une paix meilleure que celle qui l'a précédée. Il n'est absolument pas évident aujourd'hui que même si, et ça va se passer, si Mossoul est conquis par la coalition, la paix qui en sortira sera meilleure que la paix que l'État précédent.
France, c'est improbable.
C'est improbable. Le succès pourrait être un succès catastrophique.
Nous sommes d'accord.
Donc, on est bien. Mais pourquoi ? Parce que, justement, alors que nous devrions comprendre, et c'est là, on est bien sur cette difficulté que les élites aujourd'hui n'ont pas vraiment réfléchi à ce qu'est la guerre. Ils croient qu'on peut gagner la guerre en additionnant les batailles. C'est parfaitement faux. Vous ne pouvez gagner la guerre, comme le font intelligemment Churchill, Roosevelt et Staline pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils savent parfaitement là où ils veulent arriver. Et donc, ils ont par compromis, ils définissent un but commun. Aujourd'hui, le problème de notre guerre en Irak et en Syrie, c'est qu'il n'y a pas de but commun. Les buts sont orthogonaux, Régis Debray, entre ce que cherche M. Erdogan, ce que cherche M. Poutine, ce que cherche M. Obama et ce que cherche le président iranien et Israël. Bien, tout ça est orthogonal. Nous ne nous sommes pas mis d'accord sur les buts de guerre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas la guerre.
Bon. Alors vous dites, général, la guerre, c'est construire. D'abord, vous admettez tout de même que la guerre, ça commence par la destruction, ça commence par des bombardements, ça commence par...
Ce sont des outils de la guerre.
Ce sont des outils de la guerre, souvent indispensables. La guerre est contre... Alors, ça me fait penser à cette notion qu'on appelle aujourd'hui le nation building, la construction d'une nation. Moi, j'ai entendu un ministre des Affaires étrangères français, je lui disais que notre engagement en Afghanistan était complètement idiot. Non, parce que nous allons faire du nation building.
Encore, Régis Debray, une belle illusion américaine.
Oui, précisément.
Qui a traversé avec succès l'Atlantique.
C'est pourquoi j'emploie le mot nation building. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que la construction d'une nation qu'on remet à des étrangers à cette nation? Je trouve qu'il y a tout de même là quelque chose de loufoque, enfin, tragique. Et là, j'en viens peut-être, général, à une objection que j'aimerais vous faire. Je lis d'ailleurs dans votre livre, La dernière bataille de France, page 17, l'imprévisibilité et l'urgence marquent chacune des nécessaires interventions militaires. Alors, sur l'imprévisibilité et l'urgence, vous soulignez quelque chose, évidemment, qui est flagrant chez nous, c'est l'absence de cohérence, l'absence de continuité, d'accord. Mais les nécessaires interventions militaires. Alors, excusez-moi. Vous avez fait d'ailleurs dans la revue Medium un très bel article sur la guerre au sein des populations. Alors quand j'entends la guerre au sein des populations, je me dis, tiens, les populations, c'est un langage de préfet, c'est pas un langage de politique. Les populations, elles n'ont pas d'histoire, elles n'ont pas de langue, elles n'ont pas de religion, ce sont des populations. Et si les populations étaient des peuples? Et si le concept britannique, je crois que vous reprenez à votre compte, la guerre au sein des populations, était en fait la guerre au sein d'un peuple, voire même contre un peuple? Le peuple, c'est une notion historique. Le peuple, c'est une identité construite qui crée une communauté de destin entre des gens. C'est ce qu'on appelle une nation. Et quand nous intervenons, et c'est pourquoi je mets en question votre expression « nécessaires interventions », est-ce que ces nécessaires interventions ne sont pas des nécessaires occupations? Et est-ce que, par définition, l'occupant n'est pas perdant par rapport à un occupé qui se bat pour son peuple? Autrement dit, je suis toujours frappé dans ces interventions occidentales d'un fait très simple. C'est qu'on ne se voit pas nous-mêmes comme des étrangers arrivant dans des pays avec lesquels nous n'avons aucune communauté de langue, de culture, de religion, même de ce qu'on mange, de ce qu'on rêve. Autrement dit, est-ce que les Occidentaux n'ont pas perdu le sens de la nationalité? Nous ne sommes pas d'ici. Et les gens qui ne sont pas d'ici, eh ben, à un moment donné, il faut toujours qu'ils foutent le camp. Autrement dit, ces interventions que vous dites nécessaires, moi je les vois la plupart du temps perdues d'avance parce que nous sommes étrangers.
Non mais, Régis Debray, moi je reçois parfaitement vos arguments. C'est bien toute la difficulté aujourd'hui. Je voudrais citer le général Robert Smith qui a écrit ce livre remarquable, L'utilité de la force, que j'ai fait traduire moi-même en français de manière à ce qu'il soit disponible et que j'ai fait publier dans ma collection chez Economica. Et le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, nos guerres ne sont plus industrielles. C'est-à-dire que la guerre ne peut pas se réduire à la destruction, ce qui a souvent été le cas. Aujourd'hui, la guerre n'est pas gagnée quand on a détruit les chars et les obusiers de l'autre, mais quand on a pu agir sur la population pour qu'elle retrouve un état de paix.
Et convaincre l'ennemi qu'il est vaincu. Attendez, il faut d'abord qu'il y ait ce phénomène de croyance.
Non, mais c'est bien, c'est le problème. C'est que hier il s'agissait de détruire l'ennemi. Aujourd'hui, il s'agit beaucoup moins de détruire que de le contraindre, de le repousser et surtout de le ramener. Donc on voit que le problème est extrêmement compliqué. Alors, il y a eu cette idée de guerre au sein des populations qui a été une réponse, en quelque sorte, aux difficultés irakiennes, en Irak et en Afghanistan. Et donc, la pensée militaire s'est dit, au fond, il faut changer de style de guerre. Mais la difficulté, elle est là. C'est, est-ce qu'on peut gagner la guerre au sein des populations?
Est-ce qu'un chrétien au milieu d'une population sunnite
Est-ce qu'un
américain au milieu des populations chiites, c'est un occupant, c'est un ennemi. Alors, vous avez beau faire toutes sortes de communications, de distribuer du lait aux petits-enfants, des bonbons, etc. Vous êtes un occupant.
Eh bien, vous avez parfaitement raison. Donc la question de fond est aujourd'hui, est-ce que la force, et non pas la puissance, parce que nous sommes impuissants, on le voit bien, mais notre force militaire est-elle capable de gagner ces guerres qui ont muté, qui sont devenues autre chose? Et ma réponse est que probablement pas, parce que sinon on aurait gagné, ou les Américains auraient gagné en Irak, ils auraient gagné en Afghanistan. Et que donc on voit bien qu'aujourd'hui, le modèle occidental, les valeurs occidentales se sont répandues derrière la pointe de l'épée occidentale qui les a poussés. Mais aujourd'hui, cette épée, même si elle est extrêmement aiguisée, ne produit pas de résultats. Et donc, je crois qu'il faut bien admettre que nos valeurs, notre monde, va se réduire forcément à notre capacité dans la zone où on peut transformer notre force en puissance. Mais on ne peut transformer notre force en puissance que chez nous, en quelque sorte, pas ailleurs.
Alors, je vous prends au rebond. Notre incapacité à faire de l'ethnologie, à faire de l'histoire, à faire de la géographie, elle est beaucoup plus forte que notre capacité militaire. Cette incapacité, elle est mortelle. Je me souviens, parce que j'avais rencontré McNamara un jour aux États-Unis, il m'avait dit, oui, au fond, je dois avouer que je ne connaissais rien du Vietnam.
Clairement.
Je ne connaissais ni la culture vietnamienne, ni l'histoire vietnamienne.
On est encore dans l'illusion américaine.
Alors, on était dans l'illusion. Mais lui, il en est revenu.
Oui, il en est revenu.
J'ai pas le sentiment que les Français en sont toujours revenus depuis qu'ils sont devenus néoconservateurs, si vous me permettez. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que, la démocratie, ça s'impose, on arrive, on bombarde, on tue le dictateur. Et puis après quoi? Est-ce que la Libye d'aujourd'hui ne démontre pas que si on avait fait un peu d'ethnologie, si on avait compris qu'il y a des oppositions, tribales, essentielles, qu'il y a l'Est et l'Ouest, etc., Benghazi, Tripoli, est-ce qu'on n'aurait pas été peut-être plus sage?
Mais évidemment. Et puis si Monsieur Sarkozy, je suis désolé, avait pris le temps d'étudier ce que c'était que la guerre, et s'il n'était pas tombé dans cette illusion que la guerre peut se limiter à la bataille, parce qu'on a fait une bataille, on a perdu la guerre. C'est absolument clair. Alors, mais attention. C'est là, je crois, qu'il faut faire la différence entre ce que j'appelle les guerres de choix et les guerres de nécessité. Des guerres de choix, je peux vous donner des noms de guerres de choix. Il y a la guerre en Irak en 2003 et il y a la guerre en Libye en 2011 que nous déclenchons. Elles ne sont pas nécessaires. Elles ne sont clairement pas nécessaires. Et puis, il y a des guerres de nécessité. Et je prétends que notre intervention au Mali est une intervention qui était nécessaire. D'accord. Sinon, le Bataclan n'aurait pas eu lieu en novembre 2015, mais en novembre 2014. D'accord. Et donc, il fallait y aller. De la même manière que notre intervention en Centrafrique, l'opération Sangaris, fin 2013, est aussi nécessaire. Parce que nous sommes concernés par les désordres africains, qu'on le veuille ou non. Notre intervention dans le Sahel aujourd'hui, qui s'appelle Barkhane, est aussi nécessaire. Nous devons la conduire et donc nous devons nous donner les moyens. Je pense que notre intervention en Irak et en Syrie n'était pas nécessaire. Que nous sommes intervenus par mimétisme otanien ou américain, etc. Et que nous aurions beaucoup mieux fait de nous concentrer sur la zone de combat dont nous étions responsables, avec le chaos dans le Sahel. Maintenant, elle est devenue nécessaire. Maintenant, parce que notre intervention nous a transformés en ennemis de Daesh. Et donc, il est désormais nécessaire d'aller nous battre, et nous le faisons contre Daesh en Syrie et en Irak.
Je trouve très, très intéressante cette distinction entre guerre de choix et guerre de nécessité. J'ai un vieux réflexe tout de même, un peu jacobin, de penser que la guerre de nécessité, c'est une guerre de défense nationale.
Oui, bien sûr.
Là, effectivement, sûr, ça ne se discute pas.
Bien sûr,
et là, oui, moi, j'assume union sacrée, oui, effectivement. Mmh. Bon. Mmh. C'est très jaurétien ou gaullien. Alors, les guerres d'intervention, oui, vous avez raison. C'est vrai que là, ça mérite discussion. Mais je dirais toujours, avec la nécessité de dire, quand est-ce que je pourrais m'en aller ? C'est-à-dire...
Clairement.
Quand est-ce que je pourrais m'en aller ?
Clairement.
Quel est mon but exact ?
Clairement.
Hein ? Et qu'on se rappelle que la cause externe ne peut agir que par l'intermédiaire de la cause interne, c'est-à-dire qu'en définitive, ce sont les forces nationales, qu'on dira en bon impérialiste les forces indigènes, qui décident. Ce n'est jamais... un acteur extérieur qui peut décider. Si on a ce sentiment qu'on est là que pour faire un relais, qu'on est là que pour, je dirais, comme un bouche-trou parce qu'il y a une période de vacances, etc., mais qu'on n'ait pas une vision, je dirais, coloniale, occidentaliste, impériale, nous sommes là pour faire régner l'ordre, et c'est notre ordre à nous. Mais alors, si on est entouré, je dirais, d'ethnologues, d'historiens, de géographes. Vous savez que la guerre de Libye, M. Sarkozy l'a déclenchée sans consulter notre ambassadeur à Tripoli.
Non, mais cette guerre est une stupidité.
Non, mais vous comprenez,
tout le monde est d'accord.
Aucun spécialiste de la Libye n'a été consulté. On l'a fait pour des raisons, je dirais... sordide ou intérieur, des raisons d'image intérieure.
Clairement.
C'est une guerre médiatique. Clairement. Alors là, je pense qu'on se trompe. Mais j'en reviens à votre idée de la guerre de nécessité. Ça, c'est très important.
Permettez...
Est-ce que vous pouvez tout de même moduler un peu votre guerre de nécessité? Est-ce que vous pouvez un peu, à l'intérieur de cette catégorie que j'admets, qui me semble très bonne, tout de même, c'est aux politiques, en dernière instance, d'évaluer politiquement.
Bien sûr. Non, mais vous avez dit fort justement, une guerre de nécessité, c'est une guerre qui répond à un besoin de défense. On sait bien que dans l'Adrar des Iforas, dans le nord-est du Mali, les terroristes d'Al-Qaïda se préparaient un attentat majeur en France. Et donc, que le gouvernement français, le sachant, décide d'aller détruire la menace là-bas avant qu'elle se projette sur le territoire national, moi, ça me paraît parfaitement.
Tout à fait.
Ça me paraît parfaitement normal.
Intervention ponctuelle type commando,
voilà.
D'accord.
Mais alors, voilà, vous avez raison.
Occupation.
Mais on est bien d'accord. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la bataille ne produit pas de résultats stratégiques. Et c'est ce que j'explique dans l'article que vous publiez dans le dernier médium. C'est que la bataille n'est jamais que quelque chose qui va changer la donne. On change la donne, et de cette nouvelle donne peut surgir le résultat stratégique. Mais le résultat stratégique ne va pas sortir naturellement de la bataille. C'est pour ça que j'explique dans cet article qu'on a bien plusieurs phases. On a la phase d'intervention, on a une phase de transformation et après une phase de normalisation. Ce qui est intéressant, ça n'est pas la paix. Ce qui est intéressant, c'est la paix qui se soutient d'elle-même, c'est-à-dire de manière autonome. C'est-à-dire que le coffrage que les forces armées étrangères auront établi autour de la paix, eh bien, doit pouvoir être enlevé et la paix doit pouvoir tenir. C'est ça le grand problème. Mais tant que vous êtes obligé de maintenir des forces, c'est exactement ce qui se passe en Afghanistan, évidemment, vous n'avez pas rempli la mission. Et la coalition n'a pas rempli la mission en Afghanistan aujourd'hui, on le sait bien.
Général, en République, les militaires obéissent aux politiques, mais en vous écoutant, je me demande si nos politiques n'auraient pas de temps en temps intérêt à écouter les généraux, et notamment le général Desportes, pour revenir à plus de raison et plus de réalisme, non seulement en matière militaire, mais en matière politique. Je vous remercie, général, de cette conversation.
Merci, Régis Debray.
Les discussions du soir avec Vincent Desportes, Pascal Bénard et Laurence Genepin. Anne-Pascale Desvignes, Régis Debray.